bienvenue dans le magazine de découverte gastronomique sur Radio Royan, Chemin de Saveur. Aujourd'hui, zoom sur Jaco Resto, à Saint-Thomas-en-Royan, en centre-village. Proposition culinaire à base de produits essentiellement biologiques, dans un cadre accueillant et convivial. Marielle Sylvain et Bastien nous reçoivent pour une découverte de saveurs nouvelles et où le mot composition rime avec imagination. Bonjour Marielle.
Bonjour.
On se situe à Jaco Resto. On peut parler de cette initiative à propos bien d'une restauration sur le Royan. Comment est né Jaco Resto et dans quel type de restauration vous situez-vous ?
Jaco Resto est né d'une envie de se faire plaisir, de s'amuser à cuisiner des légumes, puisqu'on travaille principalement avec les légumes produits sur place, les produits de la région. Par petites touches, se faire des petits plaisirs gustatifs et puis des petits plaisirs à fabriquer aussi, à inventer, à créer.
Est-ce que c'est venu par rapport à la boulangerie Jacopin et on peut dire que ça a donné une certaine émulation déjà à cette première proposition ?
Oui, bien sûr, parce que donc déjà, nous, à Jacopin, on aime bien faire des petites nouveautés, des choses comme ça. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire aussi avec la cuisine ? On a plus le temps, les gens ont plus de temps pour déguster sur place, voilà.
En ce qui concerne donc la restauration, qu'est-ce qui vous tient à cœur de proposer aux clients ?
Ce qui nous tient à cœur, c'est déjà de travailler avec des produits locaux, qui est de travailler des légumes produits sur place, de saison, avec donc les produits locaux comme le fromage, la truite, et à travers tous ces produits qu'on a là, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc avec Cyril Fatou qui nous fournit les légumes, donc Cyril est sur Saint-Hilaire, c'est lui qui me donne les légumes en fonction des saisons et de ce qu'il a dans la semaine. C'est pas moi qui lui dis je veux ça, ça ou ça, c'est lui qui me les donne. Et donc du coup, ben, moi ou Bastien, chaque fois on réfléchit, on regarde des recettes, on s'inspire de recettes qui existent et on les accommode avec ce qu'on a. Parce que voilà, si on n'a pas tel produit, mais nous on a ça, on a l'ail des ours. Donc allez hop, on va remplacer par l'ail des ours par exemple.
Voilà. On pourrait dire que c'est la saisonnalité qui guide la carte ?
Oui, principalement. Ah oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir justement dans cette carte ? Les petites préparations peuvent prendre différentes formes ?
Oui, alors donc nous, c'est à base de crudités, bien sûr, on fait pas mal de salades. On les accompagne de petites tapas. Donc ça, c'est des légumes qu'on dit revisités. Donc c'est par exemple des légumes confits au four, parce qu'on utilise beaucoup le four à bois. Puisqu'on a cette chance-là. On fait souvent cuire les légumes au four, donc on fait des petites tapas de légumes, on les agrémente d'épices, parce qu'on aime bien travailler les épices. On fait des quiches, des tartes de légumes, des tartes à la truite. Ensuite, puisqu'on est dans une boulangerie et qu'on a du pain, on propose des tartines. On fait des tartines à base de fromage, que ce soit de la brebis, de la chèvre, du bleu du Vercors. On y met des noix, on y met de la truite fumée ou de la truite façon ad hoc, la truite qui vient de Saint-Jean-en-Royan. On propose une sorte de vercouline, donc la nôtre, donc avec des pommes de terre et du bleu du Vercors. On fait des crumbles, toujours pareil, à base des fromages et de légumes. En plat du jour, on a la truite, les filets de truite, donc qu'on cuit dans le four à bois. Voilà, qu'on fait à la demande. Après, bah, en fonction des idées, on peut faire d'autres plats du jour, à l'improviste. On va chercher de la viande, donc là, qui n'est pas en bio, puisqu'on travaille principalement en bio. Mais on va chercher la viande chez la boucherie Charvet de Saint-Laurent. Et on se fait des petits plats mijotés au four. L'idée, c'est toujours de cuisiner dans le four.
Vous proposez également des formules complètes sous forme de menu ?
Oui, bien sûr. Alors, on propose des formules avec l'assiette plus le dessert. Ça démarre de 12,90 à 20 euros. Et puis après, on a deux menus différents. Donc l'un à base de truite. On propose une crudité ou un apéro tapas avec un filet de truite et un dessert. Et puis un autre qu'on appelle le menu Jaco. Donc celui-ci, c'est l'apéro tapas avec les légumes revisités. On propose une crudité avec une tartine au choix. Ensuite, on a un gratiné. Donc, il faut avoir faim, là, hein, bien sûr. Et après, le dessert du jour, donc accompagné d'une boule de glace de chez Terra Delice.
pour une échelle de prix, on peut débuter avec une petite formule ou ne serait-ce que...
Eh ben, avec une assiette, on peut manger pour 8,90 si on prend juste un gratiné, par exemple. Les tartines accompagnées de crudités, ça va de 9,90 à 12 €. Et puis après, vous avez les formules avec dessert de 12,90 à 19,90. Voilà. Et les menus, c'est 26 et 28.
Alors, en ce qui concerne les heures d'ouverture, est-ce qu'on peut manger aussi des fois un petit bout comme ça sur le pouce en dehors des repas ?
On a une carte pour la journée, donc pour proposer des petits déj, des petits encas, on peut manger des tartines ou des planches de charcuterie, des planches de fromage toute la journée. Ça, c'est des propositions qu'on fait toute la journée. Et puis après, on a la carte de midi, donc simplement pour le midi, qu'on propose de midi à 14 h. Du mardi au samedi.
Des réservations, c'est préférable parfois quand on...
On aime bien les réservations parce que c'est vrai que ben, ça, pour s'organiser, c'est mieux. Surtout s'il y a des groupes, quoi. Après, on n'est pas complet tous les jours encore.
Suite de cette découverte gastronomique à Jaco Resto pour Chemin de Saveur. Alors, Jaco Resto côté cuisine, avec Bastien aujourd'hui aux préparations. Bonjour Bastien, ça va ?
Oui, ça va.
Alors, a priori, ça semble donc s'activer avec pas mal de légumes et d'autres choses, de nombreuses préparations en perspective, avant peut-être de préciser tous vos petits secrets, ce que vous aimez faire. Parlez déjà de la préparation actuelle, ce que vous êtes en train de réaliser.
Alors là, je suis en train de faire un chong. Alors, le chong, c'est une préparation indienne d'épices qu'on fait revenir dans l'huile. Et donc là, je suis en train de préparer mes mélanges avec du curcuma, de la cannelle, du paprika, du piment, du cumin, des oignons. Et je vais faire revenir tout ça dans une huile bien chaude pour faire ressortir les saveurs des épices en enlevant un peu le côté piquant en fait, qu'il peut y avoir par exemple dans le piment. Et ça, c'est typiquement indien. Ça, on s'en sert après pour le placer dans le dal, par exemple. C'est le plat de légumes avec les lentilles corail. Voilà.
Du plat indien, mais ça se décline très facilement en France avec les produits que l'on trouve sur place.
Ah ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. En fait, nous, on cuisine des légumes, essentiellement, quasiment que des légumes. Donc du coup, aller chercher de l'inspiration du côté indien, c'est pas mal. C'est le pays des végétariens, quoi. Et tu peux t'en servir absolument pour tout. Moi, le chong, par exemple, ça m'arrive de le cuisiner aussi avec le poulet, par exemple. C'est très, très bon, quoi. C'est une autre façon d'utiliser les épices. Tu peux cuisiner une ratatouille en faisant ton chong, c'est pas un problème. C'est plutôt qu'utiliser tes... Même si tu mets pas trop de curry en général dans ta ratatouille, si t'en mets par exemple, si tu le mets cru comme ça, le curry, sans l'avoir fait revenir, tu vas pas du tout avoir la même saveur que si tu le fais revenir et que tu vas faire cette espèce de pâte que tu vas mélanger après à tes légumes. Ça change ta saveur, mais du coup t'as le côté ratatouille français et du coup tu rajoutes un côté oriental avec ce chong, ça fait un mélange de saveurs, quoi. C'est assez génial. Enfin, moi, j'aime bien cuisiner comme ça, quoi. Tout ce que je cuisine, je le cuisine comme ça. Là, on a plein de tapas. Là, par exemple, tu vois, j'ai du colasco. Donc, c'est du chou que j'ai mixé avec des noix et du curry. J'ai de la julienne de poireau. J'ai des aubergines qui sont marinées. J'ai des brocolis avec des amandes et du bleu. Et tout ça, c'est marié avec des épices différentes. Et du coup, c'est vraiment la cuisine que moi, j'ai appris, la cuisine indienne. Avec ce que j'aime manger chez nous, quoi, tu vois, que je remets à ma sauce, quoi.
Alors, le terme tapas, c'est un terme, on peut dire, générique pour désigner quelque chose.
Ce que j'appelle tapas, en fait, c'est juste une petite préparation à grignoter. Soit à tartiner, soit à manger toute seule avec un petit pic ou avec une petite fourchette ou une petite cuillère, quoi. Du coup, j'aime bien, c'est comme en Inde, en fait, eux, ils appellent ça un thali. Un thali, c'est une espèce de menu où t'as le riz, le dal, et à côté, t'as 5, 6, 7, 8, peut-être même 15 petites préparations de petits légumes différents. Tu te fais ton menu à toi, tu manges ce que tu préfères, les choses comme ça, dans l'ordre où tu veux, tu fais tes mélanges de saveurs comme tu veux, parce qu'il y a des trucs qui vont avoir plus le goût du cumin, d'autres qui vont avoir plus le goût du poivre, d'autres plus le goût du paprika. Du coup, tu vas t'amuser un peu à mélanger tout ça dans ta bouche, quoi. C'est assez, j'aime bien ce côté-là dans la cuisine, quoi, justement, où tu peux recréer ce que t'es en train de manger qui a déjà été créé, quoi.
Un peu d'imagination dans la composition aussi des assiettes qui peut varier d'un jour sur l'autre.
Ouais, bah ouais, complètement. Et puis, c'est surtout que du coup, quand tu fais une cuisine de saison, parce que là, on fonctionne qu'avec des paniers de légumes de saison. C'est assez drôle parce que ton menu ou tes assiettes, elles sont toujours elles sont toujours colorées à la saison, quoi. Tu vois ? Là, par exemple, on vient de passer une saison, donc septembre-octobre, c'est la saison la plus riche au niveau maraîcher. C'est là où il y a le plus de différences de légumes que tu peux avoir. Dans toute l'année, c'est la période la plus riche. Et donc, du coup, les assiettes que je fais en ce moment, elles sont hyper colorées, quoi. C'est presque un arc-en-ciel, quoi. Quand tu prends le truc, t'as plein de petites couleurs différentes. Alors que quand tu vas commencer à rentrer dans l'hiver, l'hiver dur, l'hiver froid, là, tu vas être vraiment... t'as quoi ? T'as courge, t'as patate, t'as carotte, t'as navet, tu vois, c'est... Et du coup, donc, tu vas rester sur des couleurs blanches, jaunes, un peu orange, quoi. Alors que là, en ce moment, j'ai du violet, j'ai du noir, j'ai du orange, j'ai du jaune, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai de tout, quoi. Il y a absolument de tout, quoi. C'est assez... C'est assez génial pour ça, quoi.
C'est aussi un travail de couleur en plus de la gastronomie.
C'est presque artistique, en fait, au final, quoi.
Ça se rejoint peut-être.
Ah ouais, mais complètement, ouais. Moi, je trouve que déjà, quand ce que tu manges, c'est joli, t'as déjà fait plus de la moitié du travail. Après, si c'est bon, c'est toujours mieux. C'est sûr, parce que ça peut être joli et pas bon du tout. Mais en général, de toute façon, même quand tu fais la cuisine et que tu as envie de faire quelque chose de très bon, tu as envie aussi que ce soit joli. Donc du coup, ça coule de source, quoi, après.
Alors là, il y a un certain nombre de préparations. Ça permet aussi d'anticiper, de les confectionner un peu avant véritablement le service.
Voilà. Alors ouais, pour ce qui est des tapas, ouais, tu as vraiment ce côté pratique où tu prépares tout à l'avance, quoi. Et donc du coup, après, tu n'as plus que les montages à faire quand les gens ils arrivent. Et donc, tu peux beaucoup plus te centrer sur tes plats du jour ou tes petits gratinés comme on fait ici, quoi. Ou là, je le fais en direct et je le prépare directement pour les gens. Donc du coup, quand je monte mon assiette, je fais mes crudités avec mes tapas, ça c'est ce qu'il y a déjà de prêt. Et tout ce qui est à côté, ça c'est ce que je monte en direct. Donc ça, c'est extra frais, quoi.
D'accord. On peut dire que le tapas, finalement, c'est un peu la base de la proposition du restaurant. Puis ensuite, ouais, ça varie.
Ça varie tout le temps.
Même dans les tapas aussi, ça peut varier.
Ah, les tapas, elles varient constamment, de toute façon. Mais que ce soit... nos gratinés ou nos tapas, on essaye toujours de changer un peu. Mais les tapas, c'est ce qui évolue le plus. Ça, c'est sûr. Les tapas, c'est jamais la même chose, parce que vu qu'on est tout le temps avec des légumes de saison, il faut toujours réinventer ces tapas-là. Par exemple, quand tu passes l'hiver avec ta courge, tu vas pas tout le temps faire une purée de courge. Ta courge, tu peux la décliner de plein de façons différentes. Tu peux faire des veloutés, tu peux faire des purées, tu peux faire des granités, tu peux les faire souffler, tu peux faire plein de trucs différents. Et pour les gratinés... Pour les gratinés, au final, je suis peut-être plus soft sur tout ce qui va être petit plat à manger comme ça, direct, quoi, parce que je m'éclate beaucoup plus à faire les tapas. Parce qu'au niveau des saveurs, en fait, on va bien plus loin. Parce qu'on en met en toute petite quantité. Donc par exemple, si j'ai envie de me lâcher et de faire un truc très très fort, je peux le faire en tapas. Parce qu'en tapas, c'est l'équivalent d'une petite cuillère.
C'est contraster un petit peu les assiettes.
Ouais.
Alors le monde des épices semble un monde plutôt vaste, voire insondable. Ça demande aussi une culture que Bastien vous... Vous avez commencé un petit peu à connaître et que vous cultivez, enfin vous continuez à arpenter.
Alors, les épices, moi je l'ai découvert parce que j'ai commencé à faire la cuisine en fait sur les festivals avec quelqu'un qui fait la cuisine indienne. Et je me suis... j'adore manger épicé, pas forcément fort, hein, je parle juste épicé, quoi, par rapport aux saveurs que ça apporte. Et puis c'est aussi, après j'ai commencé à découvrir la cuisine ayurvédique. Et je suis pas calé, hein, dans le domaine de la cuisine ayurvédique, mais par contre il y a toute une histoire d'hygiène de vie et de choses que peuvent apporter les épices pour être bien, quoi, tu vois. Par exemple, je sais que le cumin, c'est bon pour tout ce qui est le transit, pour éviter d'avoir des gaz, ou quand t'as des gaz justement, tu manges du cumin, c'est excellent, ce genre de choses, quoi, tu vois. Et du coup j'aime bien l'idée de faire de la cuisine médecine. Tu utilises des produits sains, donc des légumes qui sont bio, qui sont de saison, qui viennent pas de je sais pas d'où et compagnie, ça, il faut que ça cuise super longtemps, hein. Les oignons, en fait, tu les fais confire, et quand tu rajoutes tes épices, après ça va commencer à faire une espèce de pâte. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire.
Oui, on parle de cuisine ayurvédique. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, ce terme ayurvédique ? Donc, c'est un peu une cuisine médecine, c'est ça ?
Ouais, c'est la cuisine médecine, ouais. Voilà, donc ce que je disais, ouais, c'est ça. C'est d'utiliser des produits sains, donc qui sont bio, qui sont du jardin, avec des épices. En mangeant bien, déjà,
tu rends service au corps.
Ouais, tu rends service au corps, et puis ça t'évite d'aller justement chez le médecin. C'est déjà la première des bases, quoi.
Alors là, c'est du poivre qui est en ce moment.
Alors là, je suis en train de piler le poivre blanc et le poivre noir. Et du coup, après, je vais rajouter mets mon paprika, ma cannelle, mon curcuma, mon piment. Et tout ça, je vais le faire revenir avec mes oignons qui sont dans l'huile là-bas. Et du coup, ça va nous faire le chong. T'es pas obligé de broyer toutes les épices. Là, par exemple, je suis en train de mixer parce que des gros points de poivre, c'est pas terrible dans l'assiette. Mais par contre, le cumin, par exemple, qui est là, ça, le cumin, tu le mets entier. T'es pas obligé de le mixer. Je le mixe quand je veux faire des curries tout prêts à être utilisés. Mais quand je fais un chong, je le mets toujours entier parce que du coup, entières, elles vont torréfier un peu plus longtemps. Et je trouve que le goût, il est assez génial. Tous les currys qu'on fait ici, il n'y a rien de déjà fait. Nous, on part que sur la base. D'accord. Donc, on n'a pas de curry déjà tout prêt quand ça arrive ici. C'est tout nous qui le préparons. D'accord. Donc, on a notre curcuma, comme je disais, notre cannelle, notre paprika, notre piment, notre coriandre, notre gingembre, notre clou de girofle. On a tout. Quand on fait des commandes, on a des énormes cartons qui arrivent là. Et mine de rien, les épices, c'est le petit côté subtil qui va sublimer un plat, quoi. Donc là, je prépare la pâte. Je vais en garder un peu, je vais pas tout mettre.
Et ça commence à sentir bon.
Ouais, ça commence, ouais.
Bastien, elle est ergonomique cette cuisine, c'est bien. Pour le travail, les accessoires, les fours, etc.
Ouais. Non, nous, on, par rapport à, tu vois, j'ai juste ce petit gaz là. En cuisine, on n'a pas de piano ni rien du tout. Tout le reste, c'est quasiment tout cuisiné au four à bois qu'on a à la boulangerie. Parce qu'on a un gros four de 3,60 m là, de diamètre en pierre réfractaire avec le bois et compagnie pour chauffer. Et du coup, on se sert de ce four là pour préparer et faire cuire tous nos légumes. Voilà, ça c'est juste un appoint, c'est genre, voilà, on est dans le royaume, il faut faire des ravioles, pour faire bouillir de l'eau, je les fais bouillir là mon eau, et comme ça au moins je sers les ravioles aux gens, quoi. Mais sinon après au niveau de l'espace de la cuisine, l'espace de la cuisine c'est un peu moi qui l'ai organisé avec mes parents, parce qu'on est tous les trois à l'utiliser cet espace, mais du coup ouais, moi je m'y sens bien. Là on a vraiment l'avantage du four, qui change tout, quoi. Le four c'est complètement dingue, parce que le four en fait, je peux m'en servir à plein de moments différents. Le four, on le chauffe le matin pour faire le pain. Donc il va arriver à 300 degrés à peu près, quelque chose comme ça. Donc quand il est à 300 degrés et quelques, donc on met notre pain. Donc là c'est là où je peux envoyer des choses pour que ce soit plutôt vif, tu vois, si j'ai des oignons à faire revenir. Après il va commencer à baisser en température, donc là du coup je vais pouvoir mettre par exemple des légumes à cuire, pas en mode tagine mais presque, quoi, tu vois, donc avec une chaleur plus douce. Et là par exemple je peux prendre une courge, juste la couper en deux, je vide les graines, je la pose sur une plaque, je la mets dans le four, j'attends une heure et demie, et en fait la courge elle va se confire toute seule à l'intérieur, et tu peux presque, enfin ça m'arrive même de la servir en tapas juste comme ça, sans l'assaisonner, sans rien du tout, même pas de sel, quoi. Parce qu'elle a caramélisé, elle a chopé un petit goût sucré qui est assez excellent, quoi. Et après, quand le four il commence encore à descendre en température, là tu peux carrément faire aussi des plats mijotés. Tu peux partir sur des viandes que tu vas faire mijoter pendant une plombe au four 4, 5, 6, 8, 12 heures. Ça va te faire une viande hyper tendre, enfin en fonction de ce que tu utilises, toujours pareil, hein. Et une fois que tu as passé encore cette étape, tu as encore le four qui continue à descendre en température. Et donc quand le four il continue à descendre en température, là tu peux partir sur des produits que tu fais sécher. Donc si tu pars sur des produits que tu fais sécher, par exemple tu vas faire sécher de l'aubergine, tu vas faire sécher Ouais. Et du coup, ces produits il me faut de la terrine, Mallory. Les produits que tu fais sécher, donc tu vas faire des chips de betterave, des chips d'aubergine, ces choses-là et tout ça. Et tu peux faire tes tomates séchées. Là, tu vois qu'après tu vas passer dans l'huile pour les conserver, tes chips tu vas les réhydrater avec de l'huile ou du vinaigre, des choses comme ça pour faire des condiments et tout, quoi. Donc là, tu vois le four, là j'ai décrit quoi, 4 étapes à peu près, mais tu peux vraiment trouver plein de façons différentes de l'utiliser en faisant juste une chauffe.
Alors on précise également, est-ce que c'est biologique essentiellement ce que vous proposez, ce que vous préparez?
Ah ouais, alors on est à 100% local. Et on est à 98% biologique, on va dire. Parce que les 2 petits pourcents qu'on va pas avoir, c'est genre la truite fumée qui vient de chez de HB, ou quand on va chercher de la viande, on va la chercher chez Patrick Charvet à Saint-Laurent-en-Royan. Donc du coup, eux, c'est des personnes qui sont pas certifiées, mais nous, on les connaît, et ils bossent bien, ils bossent très bien même. On peut pas se fournir forcément en bio. Enfin, pour la truite fumée, si, on peut très bien aller chez Stéphane Paul, mais celle de Jeff, elle est tellement bonne que du coup, on fait les deux. Du coup, tu vois, comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux, et puis nous, ça nous va très bien. Quand tu prends une assiette de tapas, ouais, il y a tout qui est bio, parce que de la truite fumée, par exemple, j'en passe pas en tapas. La truite fumée, c'est que quand tu prends des plats spéciaux et tout, quoi. Vu que dans les tapas, il n'y a que des légumes, c'est que du bio. Là-dedans, par exemple. Voilà.
Alors là, je vois que vous êtes en train de préparer un sandwich. Ça peut aussi se décliner en sandwich, la truite fumée ?
Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais, mais le sandwich truite fumée, il a beaucoup de succès. Hein. C'est même un des sandwichs qu'on vend le plus, je pense. Peut-être parce que c'est aussi un sandwich hyper abordable par rapport à la qualité qu'on met dedans. Ouais, voilà, quelque chose à savoir, c'est que quand même, par rapport à la qualité des produits qu'on utilise, on est hyper abordable. Une assiette à 12,90€ où t'as 6 préparations de tapas différentes, une crudité, et à côté t'as soit une tartine chaude, soit un gratiné. C'est pas un combat, mais presque, ouais, en fait, du coup, de se dire que voilà, ce qu'on fait à manger, c'est abordable. Je vais chercher la quiche et j'en reviens. Quand tu viens manger une salade ici, t'as pas que de la salade verte, quoi. T'as de la salade, t'as de la carotte, t'as de la betterave, t'as du chou chinois, t'as du chou rouge, t'as du poivron, t'as de l'oignon, t'as des radis, t'as du fenouil, t'as du chou-fleur. C'est fou.
C'est une petite minute,
hein,
pour le côté sucré. Parce que le côté sucré, bien, on se retrouve avec le patron Sylvain, qui est aussi toujours en perpétuelle recherche de petites choses, de curiosités, et toujours aussi apporter une valeur ajoutée. Ça n'a pas de personnel, c'est un peu ça, Sylvain ?
Toujours.
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 Alors là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la planche de travail ? Des sablés, en perspective ?
Ah, un peu de tout, là. Un peu de tout ce qui me passe par la tête. C'est un peu... père et fils, c'est le même combat. Hein. Là, je fais un petit gâteau, hein. Feuilletage au beurre avec une confiture de framboise, des raisins, des noisettes, plus tous les autres gâteaux que j'ai fait, soit à la châtaigne, soit au chocolat, plein de choses, quoi. Plus des petites notes salées aussi qui vont arriver, voilà.
Un petit côté stimulant aussi de toujours essayer d'apporter des nouveautés, d'essayer de creuser un peu plus.
Si tu fais pas ça, tu peux t'ennuyer, hein.
Il y en a qui font ça, qui s'ennuient pas de faire toujours la même chose, mais là, ça semble toujours côté.
Voilà. Il y a quand même un côté répétitif, même dans la boulange, mais quand même, on essaie toujours de mettre des produits en place de la meilleure qualité possible, quoi. Quand on fait du pain pur seigle, on fait vraiment du pain pur seigle. Un petit épaule, toutes des variétés qui sont un peu spéciales à travailler, on met vraiment un point d'honneur à les réussir, quoi. Voilà.
Alors les pâtisseries que vous proposez, ça peut être pour le resto et aussi pour la vente.
C'est pour tout, ouais. C'est pour la vente, c'est pour tout. Ouais. J'ai pas encore suffisamment de temps pour vraiment me plonger sur des desserts très spécifiques au resto, parce que je suis pris à côté, j'ai beaucoup de choses à faire quand même. Mais j'y pense.
Et comme la cuisine, le côté salé, c'est aussi, il peut y avoir des cuissons également dans le four.
Ah ben le four, lui en fait c'est l'élément essentiel de la boulangerie, pour le pain, pour la viennoiserie, pour les gâteaux. Puis tout passe dans le four à bois et la cuisine. On a des plats en terre, on cuit plein de choses à l'étouffer. Même les patates, hein, quand il faut juste les faire cuire, on les fait cuire dans le four à l'étouffer. Et c'est magique. Magique, cuisson magique.
Là, on peut dire que le four a été véritablement optimisé, tant par la boulangerie que le restaurant.
Là, c'est vraiment
c'est la pièce maîtresse.
On chauffe en plus avec du bois qui est fait localement. C'est tout fait ici pour que les matières premières, même le bois qui sert à chauffer, il est d'ici. Tout est d'ici, quoi. Voilà, donc jusqu'aux légumes qui sont proches, tous les fromages, c'est tout en coin. C'est vraiment... C'est ça. Et puis on a vraiment une qualité de produits quand même qui sont quand même exceptionnelles, quoi.
Bon, vous faites aussi des émules, hein, Sylvain, puisque vous avez des stagiaires parfois qui viennent aussi apprendre un peu votre manière de fabriquer.
Il y a plein de gens qui viennent en stage chez nous, de tous horizons, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Hein. J'ai tout eu. Hein. Cette année, j'ai eu pompier, banquier, financier, même entrepreneur dans différents horizons qui ont des qui veulent. Et là, j'ai des gens en formation en ce moment pour qu'ils passent leur CAP. J'ai des apprentis qui passent le CAP dans un cursus normal et aussi des gens qui passent par une association pour venir se former rapidement pour pouvoir passer le CAP en fin d'année.
Des gens qui font le pas quand même, c'est pas un mince pas.
Ben oui, c'est des gens qui veulent en faire leur métier, quoi. Que ce soit par le cursus normal, avec la chambre des métiers, avec le centre d'apprentissage, soit aussi par des associations qui nous envoient aussi des gens en formation. Donc là, on n'arrête pas là.
Donc ça nécessite pour vous d'avoir un certain encadrement ?
Ah ben là, on est obligé, hein, puisque comme on fait de la formation un peu pointue quand même, il faut quand j'ai des gens quand même que je forme en 6 semaines pour apprendre à faire le pain et... De A à Z. Hein.
D'accord. 6 semaines, ça paraît
court.
6 semaines,
les 2 derniers que j'ai eu au mois de...
C'est de l'intensif, 6 semaines.
Un petit peu pour eux, ouais, quand même. Mais j'en ai eu 2 en avril-mai, qui ont passé le CAP juste après une semaine et demie, avec 6 semaines de formation, et ils ont eu leur CAP au la main. Quoi. Au la main. Avec des félicitations. Donc je suis content de moi.
Oui, ça doit faire plaisir.
Et de moi
ça.
Et de l'équipe, parce qu'en fait, tout le monde participe. Ici, l'avantage, c'est que... On vient tous dans la boulangerie. Moi, je suis autodidacte. Hein, c'est moi qui ai mis un petit peu en place la méthode de fabrication. Mais après, il y a toujours des trucs à améliorer. Après, j'ai Cyril qui a fait l'apprentissage normal, qui est boulanger aussi l'après-midi, avec un apprenti, qui lui a passé son CAP à l'époque. J'ai Bastien qui est en cuisine, mais qui a aussi passé son BEP en boulangerie. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent en formation ici. Vous voyez un peu tout ce qui se passe, quoi. Et puis, la vente en direct aussi, ce qui est important. C'est pas que de la fabrication. Ils voient ce qui se passe. Et pour ceux qui veulent monter une entreprise et tout, après, c'est quand même important, quoi.
Ça fait une équipe qui est quand même assez conséquente.
Bah là, oui, on commence quand même à être un petit peu nombreux, là. 7 ou 8, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, tout compris. Et puis, sans compter les stagiaires qui viennent. Et des fois, là, on est très nombreux, là, dans le fournil. Voilà.
Très bien.
Non, il est vide. Hop, ça c'est la pièce maîtresse. Mais là, c'est bon, je vérifie qu'il n'y a plus rien dedans. En général, il y a toujours un minuteur qui fonctionne, mais là, il n'y a rien, c'est tout. Ben non, t'as revu, ben tu te sers là. Voilà, c'est pour chausson ou
quoi. Ça y est, ils viennent juste d'être cuits dans le four là.
Ah oui, tout ce qui est là, sur le plan de travail, ça vient d'être cuit au four. Hein. Si après j'ai des choses en attente, c'est l'avantage avec un four comme ça, c'est qu'on peut cuire vraiment tout et à tout moment. Enfin, à tout moment, sauf quand il chauffe. C'est un chauffage au bois, donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'il soit trop fort. Mais là, j'ai pu cuire du salé rapidement, comme des pizzas. Ce matin, j'ai cuit du pain, j'ai cuit des choses comme ça. Il y a du pain du randonneur, du pain du sud, des quiches, des patates, les tomates pour faire des coulis, tout. Tout magique, ce four.
Fin de cet épisode Chemin de saveur. Aujourd'hui, nous étions à Jacou-Resto, à Saint-Thomas-en-Royan, dans le centre-village. Merci à Marielle, Sylvain et Bastien pour leur accueil.